à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire. Éjection du dispositif électrosensitif et interactif de reconstitution d'événements.
Oh, super! Oh, une galère! Oh non! Oh non, cette fois, pas question d'exploser! Ouh, c'était bon. Maintenant, il me faut une solution à long terme. J'ai une idée. Ah, encore leur musique d'attente, mais ils n'ont jamais personne pour répondre.
Bienvenue chez la Pègre Galactique. Pour planifier un kidnapping, tapez 1. Pour déposer ou recevoir un pot de vin, tapez 2. Pour vous acquitter de la rançon de votre enfant, tapez 3. Pour toute réclamation concernant la suppression d'un proche, tapez 4. Pour être mis en relation avec un conseiller clientèle, veuillez patienter. Merci pour votre patience. Vous allez être mis en relation avec un conseiller clientèle. Dans le cadre de notre démarche qualité, ne vous informons qu'un de vos proches est susceptible d'être supprimé.
Oui, bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Spaghetto.
C'est moi.
Ah.
Un problème.
Ah non, non, rien, c'est juste que je m'attendais à quelque chose de plus... Un Spaghetto, quoi. Enfin bref, votre organisation me doit quelque chose, je crois.
Oui, que voulez-vous?
Oh, vous connaissez sans doute ma situation.
J'ai eu vent de votre problème d'ordre musical.
Je veux l'artefact.
Vous m'en demandez beaucoup.
J'en ai besoin pour régler définitivement ce problème et disons que vous m'en avez une depuis l'opération du marché de Boniface 8.
Bene, bene. Allez à ses coordonnées. L'artefact s'y trouve. À vous de vous débrouiller pour les récupérer par contre.
Ah, nous y voilà. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Ah, le voilà. Le décelling d'honneur, conservé dans les archives de Schkelmazar depuis des années au travers d'une simple vitrine. Ah, c'est presque dommage de la casser. Bon, quand faut y aller...
Là-bas!
Oh, nom d'une durite! Vite, à la capsule!
Attrapez-le! Il s'échappe!
Bon, il est grand temps, je crois, pour moi, de mettre les voiles.
Mais dis comment est-ce con à coup de laser, bon sang! Mais tire, putain!
Ah! Mais ils sont complètement cinglés, ils me tirent dessus au dénobulateur! Ouh! Il s'en est fallu d'un rien! Ah! Vous tombez bien!
Nous sommes justement arrivés à un endroit tout à fait intéressant. Mais avant de vous en dire plus, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu l'occasion d'observer le ciel à quelques encablures temporelles du lever du soleil? Une étoile parmi toutes les autres vous aurait probablement tapé dans l'œil. Il s'agit d'un astre plus brillant, d'un astre d'un blanc éclatant, d'un astre qui n'en est pas vraiment un finalement. Car en y regardant d'un peu plus près et surtout dans la durée, vous remarqueriez que nuit après nuit, ce point blanc dans le ciel étoilé se déplace de façon tout à fait désordonnée. Là où toutes les autres étoiles tournent dans le même sens dans un balai sans fin, celle-ci monte, descend, part en avant puis vers l'arrière et à nouveau vers l'avant dans une danse étrange, celle d'un astre vagabond, celle d'un astre errant. Astre errant, c'est justement comme cela que les Grecs de l'Antiquité appelaient ces étoiles dont la course semblait à l'époque ne suivre aucune logique, aucune cohérence. Astre errant, ou en grec planétès, vous commencez à me voir venir. Car oui, l'astre que vous observez maintenant depuis quelques nuits déjà est une planète, sans aucun doute la plus brillante de toutes, tellement d'ailleurs qu'on la connaît souvent sous le nom d'étoile du berger, cette planète, c'est Vénus. Vénus est la seconde planète du système en partant du Soleil. On la connaît depuis l'Antiquité et on possède avant le début de l'ère spatiale des informations de base à son sujet. On sait qu'elle a une taille presque équivalente à celle de la Terre et une masse très légèrement inférieure. On sait aussi qu'elle tourne autour du Soleil en 224 jours et qu'elle possède une atmosphère. Cette dernière a d'ailleurs pu être observée pour la première fois par Mikhaïl Lomonossov lors du transit de 1761. Un transit est en quelque sorte une mini-éclipse. En effet, lors d'une éclipse de soleil conventionnelle, c'est la Lune qui passe devant le disque solaire et nous le cache, conduisant au phénomène si rare et particulier d'une nuit en plein jour. Un transit de Vénus se fait sur le même principe. En revanche, Vénus étant beaucoup plus petite que le soleil dans le ciel, le transit ne crée qu'un petit point noir sur le disque solaire lorsque la planète passe devant notre étoile. Ce point, certes petit, a permis à Lomonossov de mettre en évidence l'existence de l'atmosphère de Vénus en observant un gradient de luminosité dans le point noir. Et à part ça, me direz-vous, eh bien, c'est à peu près tout, car si Vénus est si brillante, c'est parce que son atmosphère reflète la majeure partie de la lumière qu'elle reçoit du Soleil, à la façon d'un gigantesque miroir en quelque sorte. Cette impressionnante caractéristique nous empêche de voir au travers et on ne connaît donc rien avant le début de l'ère spatiale des conditions qui règnent à sa surface. Oh, il y a bien quelques spéculations, le début du XXe siècle raffolant particulièrement des scénarios les plus farfelus. Tenez par exemple, que diriez-vous d'une planète océan? C'est ce qu'Olaf Stapleton imagine en 1930 dans son roman Pan Thalassa, où les humains sont obligés d'émigrer sur Vénus après que la Lune se soit écrasée sur Terre. Vous préférez quelque chose de plus terre-à-terre? Eh bien, en 1918, Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie, imagine la surface de Vénus comme recouverte de forêts tropicales similaires à celles du Congo. Quant à Paul Anderson, il imagine en 1954 une Vénus désertique, mais quand même habitable. Au milieu de toutes ces prédictions atmosphériques, vous vous doutez bien qu'on imagine également quel genre de créatures peuvent vivre sur place. Eh bien, en 1932, Charles Turner imagine dans Tsumintak of the Corridor, une araignée vénusienne géante qui aurait conquis la Terre et y asservi les humains. Bref, on se situe au niveau de l'ère spatiale dans une situation où on a autant d'imagination que l'on manque d'informations. Et pour pallier à ce problème, une seule solution, envoyer un ou des explorateurs sur place pour en avoir le cœur net. C'est ainsi qu'au début de ce qu'on appelle la course à l'espace, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique vont envoyer dès le début des années 60 des sondes spatiales à la découverte de notre voisine brûlante. Si l'histoire retient les États-Unis comme vainqueurs de la course, ce sont les Soviétiques qui ont marqué de leur empreinte Vénus au travers d'un programme mythique, ambitieux et peut-être même un peu démesuré. Ce programme, c'est Venera. Alors, chers camarades, accrochez bien à vos scaphandres, à la recherche de la Spoutnitaire, partons ensemble à la découverte des sondes Venera, pionnières de l'exploration à haut risque, à la découverte de la sœur jumelle de notre planète Terre. Nous sommes le 4 octobre 1957, Baïkonour, Kazakhstan, Union soviétique. Un missile R-7 Semyorka modifié pour l'occasion se tient sur son pas de tir. À 19h28min34s, les moteurs du missile se mettent en marche dans un vacarme assourdissant. Le lanceur s'arrache de son pas de tir et décolle.
Paramètres du système d'opération de la roquette en orbite.
l'opération, élaborée dans le plus grand secret, va initier une rivalité qui trouvera son apogée 12 ans plus tard.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard.
Mais pour le moment, ce 4 octobre 1957, le R7 Semyorka se prépare à lâcher une bombe, non pas nucléaire, mais culturelle, scientifique et technique. À bord de la fusée, Sputnik 1, le premier objet manufacturé jamais mis en orbite par l'humanité. Le programme Venera se place dans la lignée directe de Sputnik. Si ce dernier a ouvert l'orbite terrestre aux soviétiques, Venera doit leur ouvrir l'espace interplanétaire et en particulier Vénus. On l'a dit plus tôt, Vénus pose plein de questions et le meilleur moyen d'y répondre est encore d'aller sur place. Mais nous sommes à l'époque en 1961, un peu plus de 3 ans seulement après Sputnik et à peine une trentaine d'années après le premier survol de l'Atlantique par Charles Lindbergh. L'exercice de la mise en orbite est donc alors très aléatoire et l'envoi d'une sonde sur une trajectoire interplanétaire l'est encore plus. Les technologies sont encore jeunes et peu fiables et bon nombre de fusées ne sortent jamais de l'atmosphère terrestre. Les soviétiques partent cependant avec des éléments solides en poche. Parmi eux, l'ingénieur en chef du programme spatial, Sergueï Korolev. Oh, il faudrait une capsule entière pour parler de cet homme, mais sachez tout de même que si les ingénieurs avaient un panthéon, il y figurait en bonne place. La première sonde Venera s'appelle en toute logique Venera 1 et est lancée en 1961 depuis Baïkonour. Le but est alors d'effectuer un simple survol de Vénus étant donné qu'on a encore du mal à l'époque à prévoir exactement la position de la planète. Dans le doute, la sonde emporte une bouée en cas d'amérissage parce qu'on n'est jamais trop prudent. Mais toutes ces précautions ne serviront à rien, car le contact avec la sonde est perdu quelques jours à peine après le début de la mission. S'ensuit alors une longue, très longue série d'échecs. Entre 1961 et 1965, aucune des 11 sondes lancées par l'Union soviétique à destination de Vénus ne parviendra à transmettre de données. Soit parce que la fusée qui les transporte explose au décollage, soit parce qu'elles restent coincées en orbite autour de la Terre, ou que leur communication ne fonctionne pas au moment voulu. Il faut attendre 1967 et Venera 4, à la faveur d'une importante réorganisation des bureaux d'études soviétiques et de l'architecture de la sonde, pour enfin retrouver le sourire. Et là, chers spoutnitériens, le doute vous habite peut-être. Eh bien oui, si 11 sondes ont échoué dans leur tâche, pourquoi la sonde Venera numéro 4 est la première sonde à avoir réussi? Eh bien, il faut savoir que chaque lancement du programme était tenu secret jusqu'à ce que la sonde adopte un statut, disons, définitif. Entendre par là que le lancement soit terminé et que l'on sache si quelque chose a explosé en cours de route. Ainsi, seules les sondes qui parvenaient à entrer sur une trajectoire interplanétaire étaient nommées Venera. C'est ainsi que Sputnik 19, 20, 21 et autres Cosmos 27 n'ont jamais vu l'orbite terrestre ni le nom Venera, alors qu'elles ont toutes été lancées avec pour objectif Vénus. Pour l'histoire, Venera 3 est la première sonde à s'être posée à la surface d'une autre planète, mais elle a cessé toute communication juste avant son entrée dans l'atmosphère. Pas de bol. En Entre-temps, les Américains ont réussi un survol de Vénus avec Mariner 2 et ont mis à jour une Vénus infernale. La température au sol est alors estimée à 425 degrés Celsius et l'atmosphère semble être essentiellement composée de dioxyde de carbone, le fameux CO2, avec une pression au sol estimée à 20 bar. C'est une pression équivalente à celle que l'on trouve sur Terre à 200 mètres sous la surface des océans. Si le début du programme Venera est, disons-le franchement, un désastre, vous allez voir, chers Spoutnikériens, qu'il faut plus qu'un succès américain pour mettre à bas le programme soviétique, et qu'à partir de Venera 4, presque toutes les sondes envoyées sur Vénus parviendront à leur destination, tout en devenant à chaque itération de plus en plus ambitieux. Mais qu'est-ce qu'il a cet objet à biper de partout? Ah, je devrais peut-être y jeter un œil. Alors, d'après les informations dont je dispose, ce Céline Dioneur permet d'inverser les ondes acoustiques émises par une chanson de Céline Dion, et donc, grâce à une astuce scénaristique violant les lois de la physique, ne plus entendre la chanteuse. Ah, les Schkelmaziens ont été tellement effrayés par la puissance de leur invention qu'ils l'ont mise sous scellé. Mais la question maintenant, c'est surtout de savoir comment il marche, et comment on l'active d'ailleurs. Un appareil de cette puissance, ça doit avoir une procédure complexe. Ah, bah non, attendez, il y a un gros bouton rouge en dessous. Appuyez pour activer, appareil à usage unique. Ah, bah j'ai pas intérêt de me louper. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, mince, on nous a retrouvés, on va devoir les semer. Spoutnikérienne, Spoutnikérien, accrochez-vous à vos ceintures et préparez-vous pour une descente infernale dans l'atmosphère de Vénus. Et ça tombe bien, puisqu'en 1967, c'est au tour de Venera 4 de pénétrer l'atmosphère de la planète infernale. La sonde survit à une décélération de 350 G et parvient à transmettre des données jusqu'à être détruite à plus de 20 km d'altitude, écrasée par la pression. Venera 5 et 6 iront un peu plus bas, avant elles aussi d'être détruites par une pression harassante de 27 bar et une température de 320 degrés. Bon, là c'est le moment où on se rend compte que les mesures prises par les sondes américaines ne sont pas entièrement correctes et qu'il va falloir prévoir des engins un poil plus costauds pour atteindre la surface. Venera 7 est conçu dans cet objectif. Le vaisseau pénètre l'atmosphère de notre voisine brûlante en 1970. Son bouclier thermique est porté à une température hallucinante de 1100 degrés, une température largement suffisante pour faire fondre les robinets de votre salle de bain. La sonde s'enfonce alors dans la dense atmosphère, descendant tout en transmettant des informations plus loin qu'aucun autre vaisseau avant elle. La sonde déploie alors son parachute dans l'espoir d'atteindre la surface en un seul morceau. Mais là, coup de théâtre à 20 km du sol, celui-ci fond et la chute de la sonde s'accélère. Fin de la partie? Pas vraiment, puisque l'atmosphère est si dense que l'engin n'accélère dans sa chute que faiblement et parvient finalement à toucher le sol avec une vitesse de 57 km par heure après 35 minutes de descente. L'impact est violent, mais pas fatal, et après quelques roulades, le vaisseau se stabilise, il est vivant. Température extérieure 475 degrés Celsius, pression 90 bar, la même que celle que l'on trouve à 900 mètres sous la surface de l'océan. Dans ces conditions, la sonde ne résiste qu'une vingtaine de minutes. Le choc subi par cette dernière à l'atterrissage permet tout de même aux scientifiques soviétiques de conclure que la dureté du sol est comprise entre celle de la lave et celle de l'argile. Après cet exploit, les ingénieurs du programme spatial soviétique ne feront qu'enchaîner les succès et les premières. Venera 9, première photo en noir et blanc de la surface de la planète et première mise en orbite autour de Vénus. Venera 10, survie de l'atterrisseur pendant plus d'une heure, record battu par Venera 11 pendant 95 minutes, puis par Venera 12 pendant 110 minutes. Venera 13 se paiera même le luxe de prendre des photos en couleur, ce qui représente un petit exploit pour un appareil photo numérique de 1981. Les sondes en orbite autour de la planète profiteront d'ailleurs des technologies similaires pour cartographier cette dernière au kilomètre près.
enfin, bouclons la boucle en mentionnant les ballons atmosphériques largués au passage des sondes Vega 1 et 2 sur la route pour l'étude de la comète de Halley en compagnie de Giotto dont nous parlions à l'épisode précédent. Le programme Venera a permis de brosser un portrait assez complet de l'état actuel de Vénus. Avec des températures de près de 500 degrés, une pression de 90 bars et des nuages d'acide sulfurique, on peut, à la fin du programme Venera, définitivement faire une croix sur la Vénus couverte d'océans comme l'imaginait Olaf Stapleton en 1930. Cependant, il n'en reste pas moins que Vénus se révèle être une planète fascinante, à commencer par sa vitesse de rotation. La planète met 243 jours à tourner sur elle-même contre seulement 224 pour faire le tour du Soleil. L'année est plus courte que la journée. Pourquoi une telle lenteur? Et en plus, à rebours des autres planètes du système solaire qui presque toutes tournent dans le sens inverse. Aurait-ce un lien avec la super rotation de son atmosphère qui fait le tour de la planète en seulement 4 jours et découverte par Venera 8? Est-ce cette atmosphère qui est responsable de cette lenteur? Et aussi, qu'est-ce qui, dans l'histoire de Vénus, l'a conduit à développer une atmosphère aussi épaisse et essentiellement composée de CO2? La planète elle-même est l'un des objets les plus arides de tout le système solaire, et celui dont la température de surface est la plus chaude. La seconde planète du système solaire est bien plus chaude que Mercure, pourtant bien plus proche. Autant de questions restées plus ou moins sans réponse à la fin du programme Venera, avant une grande période de disette explorative pour notre voisine cosmique. Car si l'URSS a déployé pendant son programme un arsenal de sondes impressionnant, seulement 3 ont visité la planète brûlante depuis 1985. Akatsuki, la dernière en date, toujours en orbite autour de Vénus, répond actuellement aux questions posées plus de 30 ans plus tôt par ses prédécesseurs et soulève d'autres problématiques. Océans disparus, ralentissement général de la planète, changement climatique apocalyptique, voilà quelques éléments de travail des explorateurs d'aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on poursuivra dans un prochain carnet de voyage. Aujourd'hui, le programme Venera semble renvoyer une époque où la faucille et le marteau arboraient encore les coiffes des vaisseaux en partance de Baïkonour. Son héritage a pourtant posé les bases des missions spatiales qui l'ont suivi et balisé la réflexion d'un changement climatique global à l'échelle planétaire. L'atmosphère de Vénus n'a vraisemblablement pas toujours été aussi suffocante et la compréhension des mécanismes ayant eu cours pendant son évolution pourrait un jour nous être utile sur des sujets bien plus terre-à-terre et de plus en plus pressants. Enfin, comprendre Vénus, c'est mieux appréhender son histoire et au passage lever un peu plus le voile sur la chronologie de l'évolution du système solaire.
Autorité stellaire capsule, rendez-vous, vous êtes cerné.
Oula, c'est pas bon ça.
Éjectez le décennionneur tout de suite, ou nous serons contraints d'ouvrir le feu.
Mais attendez une minute, je suis sûr qu'on peut s'arranger. C'est très certainement un malheureux malentendu, je vous assure.
Bon, là je suis dans un sacré pétrin. Réfléchis. Bon, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité, mais ça m'arrange vraiment pas.
Dernière sommation, ou on tire, putain!
Bon, c'est pas grave, je trouverai une autre solution, mais au moins ça va me sortir de là. Si j'inverse la polarité du fluide quantique du décélindionneur, que je le branche sur la stéréo, et que j'oriente l'antenne vers mes amis de la police stellaire... Oh là là, préparez-vous, monsieur l'agent, ça va décoiffer. Oh, c'est délicieusement génial. Alors, j'appuie sur le bouton. Allez hop, c'est parti.
Chez moi, les forêts se balancent et les foie gras crujent. Les eaux étendent en violence et les sons éternels.
Bah, dis ça tout de suite!
Chez moi, les loups sont à nos portes et nous en est pour peur.
Oh, c'est trop bien! Une fois que c'est pas moi qui me fais exploser avec cette chose. Bon, j'aurais peut-être pas non plus traîné là trop longtemps. Allumage moteur et zou! Allez, salut, bande de nazes!
J'irai où tu iras. Mon pays sera toi.
Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org dans la section podcast. vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutniterre, toutes les émissions avec en bonus quelques précisions.
Radio.